Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Bongo.
Bonsoir. La RDC ne pourra pas d'ici 2015 atteindre les objectifs du millénaire, notamment en matière de réduction de l'extrême pauvreté et la faim. C'est ce qui ressort du rapport national sur la réalisation des objectifs du millénaire 2010, publié par le ministère du Plan lundi dernier à Kinshasa. Quelle analyse faire de ce rapport et que faut-il pour que la RDC atteigne ses objectifs? Nos invités dans cette émission sont Al Kitenge, analyste et stratège. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Tati Nsungani, président de la Ligue des Jeunes de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, parti de l'opposition. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Michel Nsoumoué, analyste économique et président de la Fédération de petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Il va également nous rejoindre dans un court moment. Mais vos réactions, nous les avons déjà. Christian Lamba Ibanda, président du bureau du Conseil national de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, KLTC. Il est très difficile d'atteindre les objectifs du millénaire dans notre pays parce que les bénéfices réalisés par les principaux investisseurs privés ne sont ni gardés dans le système bancaire national, ni encore moins réinvestis dans le pays. Le système de redistribution de revenus par l'État est gravement déficitaire, caractérisé par la consommation de ressources au sommet de l'État, dans des dépenses de consommation de produits de luxe, genre achat de voitures. Justin Estokobane de Bouna en province orientale, atteindre les objectifs du millénaire d'ici 2015 est un problème de volonté politique et de leadership. Aussi longtemps que les politiciens congolais privilégient leurs intérêts privés au détriment de l'intérêt général, même en l'an 21 000, ces objectifs ne seront jamais atteints. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081-890-66-58 ou nous écrire par SMS au 081-051-57-78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiotapis.net.
La marche de la RDC vers les objectifs du millénaire est très lente et il lui est difficile de les atteindre à l'échéance de 2015. Néanmoins, certains progrès ont été réalisés, bien que beaucoup reste à faire. C'est ce qui ressort du rapport national sur la réalisation des objectifs du millénaire 2010, rapport publié par le ministère congolais du plan avec l'appui des partenaires étrangers et présenté lundi à Kinshasa. Selon le ministre du plan Olivier Kanita, tous des facteurs structurels et conjoncturels et la faiblesse des capacités de l'administration sont à la base de cette faible performance. Innocent Linga pour les détails.
Les objectifs du millénaire pour le développement sont au nombre de 8. Si la RDC se frotte les mains pour les progrès réalisés dans les objectifs 2, 4 et 5 relatifs à l'éducation primaire pour tous, la réduction de la mortalité infantile et l'amélioration de la santé maternelle, elle a de la peine à atteindre l'objectif 1 de réduire l'extrême pauvreté et la faim. Les rapports indiquent que la RDC a diminué dans les 5 dernières années cette pauvreté d'1% seulement, soit de 71 à 70. Des progrès restent à réaliser pour l'objectif 3 lié à l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes. Les autres défis concernent les objectifs 6, 7 et 8, respectivement de lutte contre les VIH/SIDA, les paludismes et autres maladies, d'assurance d'un environnement humain durable et de construction d'un partenariat mondial pour le développement. Pour le ministre Olivier Kamitatu du plan, les efforts sont fournis, mais ces objectifs ne seront pas tous atteints en 2015 et la RDC n'est pas le seul à rater les paris.
Merci Innocent Olinga, désolé tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministère du plan auteur de ce rapport sont malheureusement restés sans succès. Comprenez donc que toutes vos préoccupations et questions adressées au ministère resteront sans réponse. Même dans ce studio, nous avons Al Kitenge. Al Kitenge, je rappelle que vous êtes analyste et stratège. Les objectifs du millénaire, il y en a 8. Commençons par l'élimination de l'extrême pauvreté et assurer une éducation primaire pour tous. La RDC ne pourra pas atteindre ses objectifs d'ici 2015.
Alain, il faut entrer à la base. Les objectifs millénaires étaient censés être traités entre 1990 et 2015. Essayer de revenir en arrière, en 1990, nous étions en train de nous battre. Et un peu plus tard que ça, nous avons connu une gestion assez tourmentée, avec plusieurs phases politiques assez difficiles. La République démocratique du Congo ne s'est pas dotée un seul instant d'un plan de travail en rapport avec les objectifs du millénaire. Vous voyez bien, c'est quand même étalé sur 15 ans. Ça va en tout cas au-delà des bords politiques. Ça devrait être un plan national qui est basé sur notre engagement international. Malheureusement, nous n'avons jamais coulé cela en un plan stratégique qui devait être sous-tendu par un chronogramme d'activité et des responsabilités. Et donc aujourd'hui, le gouvernement n'est même pas en train de constater. Non, les partenaires internationaux doivent, eux, faire un rapport de comparaison à travers le monde. C'est pour ça qu'ils donnent un peu d'argent au ministère du Plan, qui, lui, finalement, endosse un petit rapport qui n'est pas le sien. C'est pour ça que et le ministère et les agents du ministère sont très mal à l'aise à pouvoir répondre aux différentes questions sur ce sujet. Et je peux vous garantir qu'ils n'avaient pas beaucoup d'arguments à pouvoir avancer là-dessus.
Alors, vous soutenez que ce rapport n'est pas du ministère, c'est un rapport des autres que le ministère a endossé. Pourquoi le titiller ?
Simplement parce que nous n'avons pas, vous savez, pour évaluer quelque chose, il faut l'avoir conçu. Nous n'avons jamais conçu un plan pour, nous n'avons pas un plan pour la réduction de la pauvreté ou pour au moins adresser les 8 points fondamentaux des OND. Et si nous n'avons pas un plan, sur base de quoi vous allez faire un constat de réussite ou d'échec? Vous savez, lorsqu'on donne comme ça les 8 points des OND, c'est un plan international. Chaque pays doit pouvoir faire l'inventaire de sa réalité et se situer par rapport à chaque critère dans une certaine position et dégager par définition une stratégie de redressement et des objectifs. En ce moment-là, on se serait donné des moyens de pouvoir réaliser ces objectifs, on se serait donné un temps pour les réaliser et on aurait décidé quels mécanismes nous devrions mettre en place et on aurait également désigné des responsables pour chaque action. Nous n'avons rien de pareil. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de constater la catastrophe, aussi simplement que ça. Mais laissez-moi vous dire des choses simples, pour un petit peu mettre les choses en ordre. Dans les objectifs du millénaire, un des objectifs de réduction de pauvreté, c'est de dire qu'un homme normal devrait vivre avec un minimum de 1 dollar par jour. Nous avons fait un petit calcul. 1 dollar par jour pour une famille de 6 enfants, qui est une famille moyenne en République démocratique du Congo, ça fait 8 personnes à la fois. Si vous multipliez par 30, ça fait 240 dollars. Par mois, ce qui devrait être le plus petit salaire qu'un homme normal puisse être en mesure de gagner pour être en mesure de prendre en charge sa femme et ses 6 enfants. Si vous prenez 2 millions de fonctionnaires, ça veut dire la fonction publique, la police, l'armée, les services spéciaux, 2 millions de personnes, ça nous amène déjà à 6 milliards de dollars. Nous ne les avons pas. Notre budget, recettes internes plus tous les emprunts qu'on est en train de faire sur la place internationale, c'est-à-dire que c'est 6 milliards de dollars. C'est donc en fait mathématiquement impossible. Nous n'avons pas la capacité de bondir à ce niveau-là. Il reste que, est-ce que nous avons des moyens de pouvoir le faire? Oui, mais bien entendu, mais il faut d'abord que nous nous entendions sur ce que nous voulons faire de ce pays. À mon avis, cette question dépasse les frontières de la politique, c'est une question de société. Elle engage tout le monde, de sorte que demain, si nous décidons des moyens à mettre en place pour que notre pays fasse le bon qualitatif que nous appelons tout le temps, dépassant les bords politiques, il sera possible de laisser la main aux hommes qui arrivent au pouvoir. Parce que très malheureusement, notre pays, dans son cadre financier actuel, est ingouvernable.
Voilà, la réalisation me signale que elle n'arrive pas à joindre Tatin Sungani, président de la Ligue des Jeunes de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, parti de l'opposition, ainsi que Michel Nsomwe, analyste économique et président de la Fédération des Petites et Moyennes Entreprises du Congo, Sénatec, s'ils sont en train de nous suivre, qui nous permettent de les vendre afin de participer à cette émission. Kitenge, parmi les causes, le ministre Camille Tatou, je l'ai dit tout à l'heure, parle des facteurs structurels et conjoncturels et la faible capacité de l'administration comme base de cette faible performance. Comment vous analysez ces raisons?
Je n'aime pas beaucoup les rapports où les mots sont très spécifiques, réservés à une classe bien déterminée. C'est une bonne manière de mentir à notre population. Il faut dire à notre population que le cadre financier et économique actuel de notre pays ne nous permet pas de pouvoir faire face aux contraintes qui nous sous-qualifient. C'est ça la vérité.
Les Nations Unies et les institutions internationales aujourd'hui soutiennent la stabilité du cadre macroéconomique. Entre autres éléments de la stabilité du cadre macroéconomique, c'est que l'État ne se dégage pas de ses engagements. Vous savez, l'État ne paye pas la dette intérieure, l'État est obligé de garder les petits salaires. Tout le monde sait très bien qu'avec les petits salaires, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de pouvoir d'achat entre les mains des gens et il n'y a pas de dignité humaine. C'est ça la réalité. Donc, à un moment donné, argument contre argument, nous devons être en mesure de bâtir notre partenariat avec les partenaires étrangers et internationaux sur la vérité. Vous savez, lorsque vous allez dans les objectifs du millénaire et vous rentrez dans la stratégie locale et des rapports que nous avons avec nos différents partenaires, il y a un gros mensonge et une grosse hypocrisie que nous devons arriver à éliminer. Vous savez, à force de croire que nous devrions nous contenter du cadre macroéconomique existant et du budget que nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de laisser 80% de notre territoire en dehors de toute gestion. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens d'alimenter une police et une armée capables d'assurer la sécurité de notre pays, parce que cela a un prix. Et si vous prenez le prix qu'il faut payer pour assurer un minimum de sécurité dans ce pays, nous sommes largement au-delà du budget que nous avons. Et donc, tout compte fait, nous allons subir la fracture sociale que nous avons aujourd'hui, qui consiste à avoir une partie des gens qui vivent en ville avec un autre train de vie, et une grande partie de notre population qui vit en état d'animal dans des endroits où nous n'avons aucun effet de l'État. Et encore une fois, ça reste très dangereux, je le dis, je le redis, parce que aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une rébellion, les rebelles sont recrutés dans les milieux où il n'y a pas d'espoir, là où il n'y a pas de présence organisée de l'État, là où nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de donner une offre publique. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je pense que lorsque vous mettez en parallèle les OND et vous mettez la stratégie nationale avec l'aide de nos partenaires, il y a une dichotomie extrêmement dangereuse. Il faut l'adresser. Et ça, encore une fois, ce n'est pas une question politique, c'est une question de société.
Prenons cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu pour vous, Altingue.
Maïdou Franklin de Bukavu au sud Kivu. Les objectifs du millénaire pourraient enregistrer des avancées d'ici 2015 si les autorités géraient à l'intérieur de famille la chose publique, car la RDC dispose du DCRP qui prévient les causes de l'extrême pauvreté des Congolais et dont ils sont cassés. Avec ce DCRP, la RDC ne pouvait plus avoir de difficultés à réduire la pauvreté. Mais je me demande à publier ce communiqué, quel est le message que vous voulez transmettre au gouvernement alors qu'il est le temps qui doit abandonner les directives pour lutter contre cette insécurité. N'est-ce pas là un aveu de puissance de la part du gouvernement?
Réaction à ce qui tombe. J'ai toujours pitié de notre population parce que, apparemment, elle gobe tout ce qu'on lui dit. Vous savez, le DSRP, aujourd'hui, le DSRP 2 ou révisé ou rénové, ne sont même pas des programmes spécifiques au Congo. C'est des programmes génériques qui sont saupoudrés à travers le monde. Ils ont échoué partout. Et d'ailleurs, en République démocratique du Congo, nous avons une cohabitation entre le DSRP et les cinq chantiers. L'un dans l'autre, on a tendance à dire que le DSRP contient les cinq chantiers. C'est faux. Les cinq chantiers sont bien plus gros que le DSRP. Une manière de vous dire qu'une communauté nationale doit pouvoir décider de son avenir. Aujourd'hui, le DSRP est un copier-coller et c'est pour ça qu'il ne marche pas. Nous devons être en mesure de faire l'inventaire réel de notre pays. Et si nous faisons l'inventaire réel de notre pays, nous allons nous rendre compte que nous sommes dans une situation terrible et difficile. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Regardez bien, nous sommes un pays qui a 2,5% de personnes actives qui travaillent. Quelle est la théorie économique que l'on peut mettre en place pour être en mesure d'assurer une solidarité économique de ce pays? Ça n'existe pas. Nous sommes un pays où 80% de la population vit en milieu rural, où il n'y a ni police, ni poste, ni armée, ni quoi que ce soit, parce que nous n'avons pas les moyens d'y agir. D'ailleurs, vous voyez des choses qui arrivent à gauche et à droite. Récemment encore, un ministre a été attaqué en pleine brousse, son garde-corps a été tué, d'autres personnes ont été blessées, heureusement que lui s'en est sorti, je ne sais par quelle magie. Chaque jour que vous suivez votre radio, vous avez la température des réalités sociales de notre pays. En fait, il faudrait que nous soyons extrêmement sérieux à un moment donné ou à un autre de notre avenir.
à mon avis, il faudrait qu'on s'arrête, qu'on fasse l'inventaire de nos atouts, qu'on décide d'un plan ambitieux. Malheureusement, ce plan ambitieux dérange nos partenaires parce que ça ne fait pas partie de leur programme. Lorsque vous regardez dans les OMD, il y a un point important qui concerne le partenariat mondial. Ça veut dire qu'on voudrait un partenariat mondial pour le développement. Lorsque vous le lisez de manière assez claire, l'intention est de garder la main dans la même direction. Ce sera toujours les pays développés qui vont devoir nous donner. La réponse est qu'aujourd'hui, non. Nous leur donnons le bien-être. Par exemple, la République du Congo est un bassin de respiration mondiale. Ça, c'est quelque chose que nous leur donnons. Ils veulent que nous mondialisons le marché pour que le commerce international soit ouvert, pour qu'ils puissent nous vendre des produits à valeur ajoutée alors qu'ils prennent sur nous les matières premières. Mais la vérité, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, nous devons avoir accès au marché financier. Et quand on leur dit qu'il faut mondialiser le marché financier, ça pose problème. Et donc, à un moment donné ou à un autre, il faudrait que nous arrivions à relever de notre avenir et ne pas laisser les gens relever à notre place.
Donc, le problème, c'est le Congolais lui-même.
C'est le Congolais lui-même, c'est aussi simple que ça. Quel est ce pays qui n'a pas un plan? Nous n'avons un plan pour rien. Nous n'avons pas un plan de développement pour les 30 prochaines années, même avec l'aide de là-bas de l'USAID, les 3 millions de dollars qu'ils ont mis à notre disposition en septembre dernier. Jusqu'aujourd'hui, les travaux n'ont toujours pas commencé. Entre le ministère du plan et la présidence de la République, les gens se battent sur le leadership. C'est complètement ridicule. Nous n'avons même pas un plan d'aménagement du territoire aujourd'hui. Les pommes de terre qui viennent de Goma doivent payer $1 le kilo pour arriver ici. Et Kinshasa consomme plus de 50% des haricots qui viennent de Chine. À un moment donné ou à un autre, nous devons être en mesure de nous projeter dans le temps et être en mesure de décider comment on travaille. Le piège est le suivant. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont au pouvoir, mais qui n'ont pas le pouvoir. Aussi vite qu'ils essaient de prendre une moindre initiative, on les tire vers le bas. Nous sommes un pays qui n'a pas encore le consensus sur notre capacité à engager nos ressources. Une dernière illustration, c'est Inga. Sur le potentiel de Inga, nous avons 45 000 mégawatts de potentiel. C'est près d'à peu près 30 à 40 milliards de dollars annuels que nous sommes en train de jeter à l'eau chaque année. Et comble de rire, le Congo-Brazzaville va commencer à nous envoyer du courant électrique alors que nous avons le potentiel le plus important du monde à un seul site.
Alors, un problème. Pour les auditeurs qui nous suivent, juste rappeler qu'il y a 8 objectifs du millénaire, éliminer l'extrême pauvreté, assurer une éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH, SIDA, le paludisme et d'autres maladies, assurer un environnement durable et mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Al Kitungi, je vais lire un extrait de ce rapport. Je cite « Les pays pauvres se sont engagés à mieux gouverner et à investir dans leur population par le biais de la santé et de l'éducation. Les pays riches à les appuyer en utilisant les outils suivants, aide, allègement de la dette et commerce plus juste. Est-ce qu'on peut dire un mot sur l'aide dont bénéficie la RDC?
Moi, lorsqu'on parle de l'aide, je dis qu'on devrait l'arrêter parce qu'elle ne sert à rien. Ça fait des années qu'on donne de l'aide. L'aide avilie, l'aide rend les gens paresseux. L'aide aujourd'hui sert au détournement. Tout le monde sait que la plupart des dictateurs africains se sont enrichis avec l'aide. L'aide a enrichi les gens en Occident parce qu'il y a toujours cette opération en retour. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des investissements intensifs dans la transformation de nos potentiels en réalité à valeur ajoutée locale. Ça donnerait une véritable vision de notre pays et de notre continent, et ça permettrait qu'à terme, l'implication de l'Occident en Afrique soit une implication responsable qui leur permet de gagner en retour quelque chose et qui nous laisse notre dignité. Aujourd'hui, nous recevons de l'aide, comme vous le savez très bien, la main tendue n'a pas de parole, nous n'avons même pas la main mise sur notre politique et nos choix politiques, simplement parce que nous dépendons sérieusement, y compris pour notre survie quotidienne, des autres.
Alors, il était également allusion de l'allègement de la dette. La RDC a bénéficié de l'atteinte du point d'achèvement par rapport aux objectifs du millénaire qui ne seront pas atteints d'ici 2015. Finalement, à quoi aurait servi cet allègement?
Je vais vous poser la même question parce que moi, j'ai déjà pris position dans votre média depuis très longtemps. Avant l'allègement, il risque d'être après l'allègement, simplement parce que nous n'avons pas de plan. Le plan consisterait normalement à avoir un endettement nouveau qualitatif et intensif pour avoir un impact sur l'économie. Parce que tout compte fait, le fait d'alléger ne nous donne qu'un avantage, celui de garder dans notre trésorerie près de 30 millions de dollars par mois. Et ça, ça ne change pas la vie des Congolais. Il faut vous souvenir que nous sommes 60 à 70 millions de personnes sur un territoire de 2 345 000 km², et donc il faut des capitaux en intensité suffisante pour être en mesure de faire la différence. Ne pas le faire de cette manière ne nous donne pas le choix de progresser comme les autres pays qui ont une autre dimension et d'autres réalités, et nous met en danger. Et le danger, il est social. C'est pour ça que nous avons une précarité politique qui, finalement, est en contraste total avec nos ambitions économiques. Nous ne pouvons pas nous en sortir de manière progressive. On doit faire un bond intensif et qualitatif. Et pour ça, il n'y a pas d'autre manière. L'aide ne nous y aidera pas du tout. Il nous faut des investissements intensifs. C'est pour ça que nous disons, le Congo doit avoir un plan d'appel à capitaux. Mais pour avoir un plan d'appel à capitaux, il faut avoir son propre plan d'investissement. Et le Congo ne l'a pas. Je dis tout le temps que nous devons avoir ce qu'on appelle un country business plan. C'est-à-dire un plan de gestion du pays. De quelle manière nous comptons emprunter pour être en mesure de faire quelle activité économique et quelles infrastructures économiques pour que, à échéance que nous aurons déterminée, nous soyons à mesure d'être au niveau des engagements que nous avons pris par rapport à l'endettement. En fait, un pays fonctionne exactement comme une entreprise. Et là-dessus, pour que nous soyons à mesure de faire des engagements intensifs du point de vue financier, il faudrait bien que les rivalités politiques se taisent et qu'on comprenne l'intérêt national. Il est important que la communauté nationale se parle. Nous ne pouvons pas être un peuple à qui on dit ce qu'il y a à faire tout le temps, simplement parce que nous n'avons jamais décidé nous-mêmes de ce que nous voulons faire.
Augustin de Maniema au Kindu, ce rapport est fondé mais décevant, car je suis désolé de constater que le gros des dépenses de notre État porte sur l'avis des ministres, députés, gouverneurs et ADG. Par conséquent, les citoyens, notamment les fonctionnaires de l'État, croupissent dans la misère. Al-Kitenga, notre extrait de ce rapport, en rapport avec l'élimination de l'extrême pauvreté et la faim, la grande majorité des Congolais continuent à vivre dans la pauvreté à cause de la faiblesse des revenus individuels, de la non-satisfaction de besoins alimentaires, de l'accès difficile aux soins de santé, à la scolarisation et à un logement décent. Toutefois, l'incidence de la pauvreté a baissé d'un point entre 2005 et 2006. Souvent, dans ce genre de rapport à Al-Kitenge, quand on évoque, par exemple, la baisse de l'incidence de pauvreté, on a un peu tendance à vouloir rire, hein, parce que ça coïncide, ça va toujours à l'encontre de la réalité sur terrain.
Et vous avez raison, ce terrain est multiple. Lorsqu'on est assis à Kinshasa, on est dans une salle climatisée comme le studio de votre de radio, on peut se permettre de dire un certain nombre de choses. Et je trouve ça indécent. Parce que vous prenez simplement 30 km en dehors de Kinshasa, vous entrez à gauche ou à droite, il y a nos compatriotes qui vivent en état d'animal. Nos députés qui vont aujourd'hui à la recherche des citoyens pour voter pour eux voient des choses qu'ils doivent être en mesure de retransmettre dans la réalité de tous les jours et dans la gestion. La vérité, c'est que aujourd'hui, les uns peuvent être plus jaloux que les autres par rapport à ce que l'auditeur de tout à l'heure disait. Il parle des ministres et des PDG, mais en fait, quel est le pourcentage de notre population que représentent ces gens? On devrait même arrêter d'en parler. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est la dignité humaine. Il y a un minimum en dessous duquel un être humain ne peut pas vivre. Deuxième chose, il y a un minimum d'offres publiques qu'un État est censé offrir à ses citoyens, où qu'ils soient. Aujourd'hui, il y a des gens qui naissent et qui meurent sans savoir ce que c'est une injection, sans savoir ce que c'est un médicament. Il y a une partie de nos femmes qui meurent en accouchant, simplement parce qu'elles n'ont jamais été consultées. Il y a une grande partie de notre population dont les enfants naissent et meurent sans avoir été à l'école. Et toutes ces réalités, elles sont intensives dans notre pays. Les proportions sont grandes. Chaque chose ayant un prix, il est important qu'on se rende compte que dans le cadre financier et économique actuel, nous sommes un pays en danger.
Nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur.
Jean-François Radeau, de Mbandaka à l'Équateur. Les rapports du ministère du plan doivent nous interpeller tous. En RSC, nous avons un problème d'hommes capable de transformer ce pays en un paradis. Car nous avons des ressources naturelles envoyées par nos pays voisins. Mais les fils de ce pays ne veulent pas travailler et attendent que les étrangers travaillent à leur place. Réveillons-nous et mettons-nous au travail pour rendre notre pays riche. C'est par le travail que nous cesserons d'être un pays dépendant.
Alkitengue, vous aviez déjà dit que c'était un problème d'homme, et il appelle au travail cet auditeur.
Et il a raison. L'erreur serait de croire que cet homme est en train d'appeler au travail les politiciens. Non, non, non. Il appelle les Congolais, où qu'ils soient. Vous savez, on a la gestion que l'on mérite. Aujourd'hui, par exemple, le chef de l'État, il fait ce qu'il pense être bon pour nous. Le Congolais n'a même pas un seul canard par lequel il lui a dit ce qu'il attend de lui. Aujourd'hui, nous donnons un chèque en blanc à tous nos politiciens. Ce n'est pas acceptable. Nous devons être une société qui décide de ce qu'il y a à faire. À partir du moment où on sait ce qu'on attend de nous, même ceux qui prétendent nous diriger peuvent savoir si c'est un travail qui est à leur portée ou pas. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'amuser à n'importe quel poste. Et ce que je suis en train de dire nous concerne tous. Il est important qu'on engage cette discussion de société pour être en mesure de définir où est-ce que nous voulons aller dans 5 ans, dans 10 ans, jusqu'à peu près dans 25 ans ou 30 ans. C'est important. Et ce monsieur qui vient de parler dit quelque chose de simple. On doit se mettre au travail. Pour se mettre au travail, il faut commencer par concevoir ce qu'on a à faire.
Michel Sommet, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir, monsieur, en ligne.
Voilà, vous êtes analyste économique et président de la Fédération des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. La RDC ne pourra pas atteindre d'ici 2015 les objectifs du millénaire. Quelle est votre analyse à ce sujet?
D'abord, j'aimerais dire que ça, ce n'est pas une bonne prophétie de dire que la RDC ne peut pas atteindre le millénaire d'ici là en 2015. C'est un défaitisme. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas atteindre, si nous décidons d'atteindre l'objectif du millénaire en 2015. Tant mieux, les deux intervenants de tout à l'heure, mes amis que je salue en passant, disent que les Congolais n'aiment pas travailler. Je crois que ça, c'est faux. Lorsque l'on veut, moi je vois, je suis en face des petites et moyennes entreprises congolaises, et je vois comment les gens se tuent à rechercher de quoi vivre tous les jours. Je vois comment les gens travaillent à longueur de journée, du matin au soir, les mamans qui quittent les maisons à 7h, 5h du matin, 3h du matin, pour aller dans des boulangeries chercher du pain. Dire que les Congolais n'aiment pas le travail, c'est une erreur, une insulte à l'égard du Congolais. Ce sont des conditions de travail qui ne sont pas mises en place par ceux-là qui doivent les mettre en place. Il y a dans toute société, il y a la répartition des tâches. L'État est en charge des infrastructures générales, du cadre général de travail dans lequel les privés doivent se déployer. Mais l'État ne fait pas son travail. Alors, les privés, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils se pourvoient dans la débrouillardise, dans une économie du sauve qui peut, qui, en fin de compte, ne donne pas de résultats. Ils se tuent à travailler, mais en fait, ils s'esquintent. Parce qu'il y a une présenteur qui s'appelle l'État qui ne veut pas faire son travail. Qu'est-ce qu'un privé peut faire par rapport à ce qu'on appelle les biens publics, c'est-à-dire les biens qui doivent relever au monopole de l'État et qui sont une condition incontournable pour que le travail se fasse? Un exemple simple, la politique monétaire, j'aime bien y revenir, parce qu'on vous dit partout dans le monde que le crédit est la condition préalable pour la création de petites et moyennes entreprises et même pour le financement de toute activité économique. Dans notre pays, nous avons un parlement, nous avons un gouvernement qui ne comprennent absolument rien de la politique monétaire et qui passe le temps à nous raconter à longueur de journée que la monnaie est stable, en même temps que la monnaie n'existe pas. Il y a un problème à ce niveau-là. Mais les étrangers dont on dit que c'est eux qui aiment travailler, ils travaillent avec quel financement? Ils viennent avec des capitaux d'étrangers qui ont envahi les territoires congolais. Aujourd'hui, le gouvernement le plus officiellement du monde vous dit qu'il y a au moins 18 milliards de dollars américains qui circulent dans l'économie congolaise. Comparer 18 milliards de dollars américains importés de l'extérieur et qui sont totalement hors de la portée de l'autorité monétaire, comparez-les aux 1 milliard 300 qui constituent la masse monétaire totale que la Banque centrale met à la disposition de toute l'économie congolaise. Vous comprenez que les rapports de force ne s'expriment pas. 18 milliards de dollars à la disposition de l'économie étrangère contre 1 milliard 300 pour 70 millions d'habitants. Et qu'est-ce que vous pouvez avoir à condamner les Congolais par rapport à cette disproportion?
Michel Sommet, Juste rappeler également l'intention des auditeurs, les 8 objectifs du millénaire, éliminer l'extrême pauvreté, assurer une éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH, le SIDA, le paludisme et d'autres maladies, assurer un environnement durable, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Je vais devoir vous lire un autre extrait de ce rapport en ce qui concerne la situation alimentaire qui est très précaire en RDC. L'apport en calories des repas a fortement baissé de 90 à 2001. Je vous épargne les chiffres. Sur la même période, la proportion de la population n'atteignant pas le niveau minimal d'apport calorique a également baissé. La situation s'est aggravée après 2001 en raison, entre autres, de la crise alimentaire mondiale. Et il faut noter que la malnutrition est l'un des principaux problèmes de santé et de bien-être qui affecte surtout les enfants. Un mot sur la situation alimentaire, M. Nsoumé.
Justement, la question alimentaire me donne l'occasion de vous dire que ce qu'on raconte n'est pas une réalité. La population est très mauvaise. Imaginez que le Congo a à lui tout seul 32 millions d'hectares de terres arables inexploitées. C'est exactement la même étendue que la Chine utilise pour nourrir 1,3 milliard d'habitants. Le Congo ne les utilise absolument à rien du tout. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas, il n'y a pas un système, une industrie financière capable de financer l'agriculture au Congo. Rappelez-vous une simple chose. C'est que la culture d'un produit comme le riz que nous importons à grande échelle, la campagne ne dure que 3 mois. Combien d'années faut-il couvrir les besoins en riz pour un pays qui a 132 millions d'hectares de terres arables? Comment peut-on me dire que si aujourd'hui l'État congolais s'implique dans la politique monétaire responsable et pousse les PME, parce que tout, 90% des Congolais sont des agriculteurs, et qu'on est en disposition des moyens nécessaires pour la production du riz, combien d'années nous faut-il pour couvrir le besoin en aliments, le besoin alimentaire en matière de riz et cesser les importations? Le manioc, on dirait la même chose. Sur les 32 millions d'hectares, 132 millions d'hectares, excusez-moi, de terre. Mais le manioc, aujourd'hui, il y a des espèces qui rendent après seulement 6 mois. Mais quelle est la banque qui accepte de financer l'agriculture au Congo? Et pourquoi ces banques ne veulent pas? Et que fait l'État par rapport à ce refus des banques de financer l'agricole au Congo? Rien du tout. L'État, on a vu dans ce pays, on a créé une banque. On l'a installé à Kinshasa où il n'y a pas d'agriculteurs. Est-ce que c'est responsable? Est-ce que là-bas il y a une politique? C'est la faute d'un citoyen congolais, ça? Et qui ont tué la BGR avant le crédit agricole? N'est-ce pas les fonctionnaires de l'État, les gestionnaires de l'État, en particulier les directeurs de la Banque centrale, parce qu'ils avaient des gens privés, parce qu'à l'époque, qui se sont donné des crédits à la place des agriculteurs? N'est-ce pas des ministres et des directeurs de la fonction publique à la place des agriculteurs? Et comment on peut dire que le Congolais ne veut pas travailler? Une infrastructure juste pour jouer de la face. Et vous savez très bien que ce problème alimentaire peut être résolu avec un brin de volonté. En quelques jours, on a résolu le problème.
Merci.
Et comment ne pas brûler l'affaire à la famille en moins d'une année? Comment peut-on me dire que d'ici 2015, on ne peut pas vaincre la famine si vraiment l'État s'engage dans une politique monétaire responsable visant le financement de l'agriculture dans ce pays? Qu'est-ce qui peut empêcher de produire des millions de tonnes de riz si on le veut aujourd'hui?
Merci. C'est mon point. Merci Michel Nsoumé. Juste rappeler que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministère du plan auteur de ce rapport sont restés vains et pourtant il y a beaucoup de questions qui leur étaient adressées, qu'à cela ne tienne. Que faut-il pour que la RDC atteigne les objectifs du millénaire? C'est la deuxième partie de cette émission. Alkitenge, je vous redonne la parole tout à l'heure. Écoutez cette réaction qui nous vient de Paris pour Michel Nsoumé.
Je suis M. Jules Sonda depuis la France, à l'envie de Clermont-Ferrand. Pour que le pays puisse arriver à atteindre les objectifs des millénaires, il faut donc que le gouvernement puisse investir en faveur des travailleurs qualifiés, du secteur de la santé, de l'éducation aussi. Le gouvernement doit améliorer le climat des affaires pour attirer les investissements étrangers. Le gouvernement doit aussi améliorer les exportations et investir dans l'eau, dans l'assainissement de l'environnement. Et enfin, le gouvernement doit améliorer les conditions de logement et aussi des infrastructures, en particulier dans les bidonvilles, non seulement des Kinshasa, mais aussi dans toutes les grandes villes ARDC. Donc bref, il faut une volonté politique avec des grandes orientations claires et fiables, et qui ne vont pas malheureusement au gouvernement.
Monsieur Sommoy, comment vous analysez ces propositions de cet auditeur?
Un discours vrai. C'est un discours vrai. Toute la faute incombe totalement au gouvernement. Notre gouvernement est irresponsable. Il est incapable. Passez-moi le terme.
Ne faudrait-il pas adoucir un peu les termes? L'émission est très suivie, elle est également pédagogique.
Excusez-moi, qu'est-ce qui n'est pas doux là-bas? Vous voulez remplir? Qu'est-ce que vous devez confondre? La vérité n'est jamais douce, elle est toujours la vérité. C'est comme ça qu'elle est, malheureusement. Là, ce sont des choses qui sont vraies. La vérité, c'est quoi? C'est que je viens de vous le dire. Il faut que le gouvernement ait une volonté avérée, mais une volonté vraie, pas une farce de volonté, un tapaleil. Reparons du secteur de la santé. Nous savons très bien que dans ce pays, ce qui a tué les infrastructures de santé, les institutions sanitaires, c'est le manque de pouvoir d'achat. Les gens ne savent pas accéder aux soins médicaux de qualité parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat suffisant. Mais par rapport à l'attitude du gouvernement, dans quel pays du monde peut-on accepter qu'un gouvernement fixe le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel, à 3 dollars par jour, 1 dollar par jour, 23 dollars n'est jamais arrivé? Quelle est l'attitude? Qu'est-ce qu'on peut penser d'un tel gouvernement? Il dit haut et fort que le citoyen congolais, lui, peut vivre avec un dollar par jour. Est-ce que c'est normal?
Merci.
Et quand ce Congolais n'a que un dollar par jour, pendant qu'un comprimé lui coûte 10 dollars, comment voulez-vous que continuer à fréquenter les institutions sanitaires?
Merci.
Et on tape à côté en résolvant le problème pendant qu'il y a des vrais problèmes, payer les salaires aux fonctionnaires et l'assurance de la santé.
Merci.
Et donner de l'air. Fonctionnaires, le salaire est constant, ils atteindront un niveau d'alimentation convenable.
Merci, M. Nsomoué. Al-Kitenge, il y a des auditeurs qui ont des propositions également. Bavon Bouy de Mbujima et au Kassai Occidental, la RDC devrait d'abord établir un état de droit et avoir un programme cohérent de développement incluant toute la population congolaise qui doit participer à toute action visant l'atteinte de ses objectifs du millénaire pour le développement. Je pense que ceci est le rôle de l'État, au lieu que ce dernier brille par des actions d'éclat ponctuelles. De Kisangani en province orientale, Pepe Lissungi, d'où viendront les moyens pour éliminer la pauvreté en RDC? Car notre gouvernement crie toujours au manque de moyens. Je me demande aussi pourquoi avoir publié ce rapport à la fin du mandat au moment où la pauvreté a déjà ruiné le peuple congolais Al-Kitenge. Non, la publication de ce rapport ne procède pas de la volonté du gouvernement, je vous l'ai dit de manière tout à fait simple. Ça procède de la volonté des partenaires internationaux. Eux, ils doivent produire des rapports par pays pour être en mesure de les consolider dans les rapports continentaux et puis dans le rapport mondial. Eux, les fonctionnaires internationaux, ils doivent faire cet exercice tout en ignorant que derrière ça, il y a des vies humaines. En fait, je voudrais quand même répondre de manière tout à fait simple à Michel Sommoy et peut-être revenir sur quelques points importants. L'ancien gouvernement ou l'ancien État qui avait des monopoles sur tout est complètement mort dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a un management public moderne qui est à mi-chemin entre le privé et le public dans ce qu'on appelle les partenariats public-privé. Je voudrais vous dire par exemple que le parc autoroutier des grands pays internationaux appartient à des sociétés et ces sociétés sont en majorité privées. Ça veut dire qu'en fait, y compris dans les missions publiques, aujourd'hui l'action est de plus en plus privée. Il ne faudrait pas qu'on se rediste, mais il reste qu'un État s'organise par la volonté politique. Mais la volonté politique toute seule ne suffit pas. Il faut beaucoup de moyens derrière. Entre autres moyens qui manquent sévèrement, ce sont les moyens financiers. Il faut résoudre la question des moyens financiers.
D'où viendront ces moyens?
L'État congolais a aujourd'hui des mécanismes pour lever des capitaux sur la place internationale. Je donne un exemple simple. Nous avons un potentiel hydroélectrique capable de produire 67 milliards de dollars chaque année. Mais il faut d'abord investir là-dedans. Nous n'avons pas les moyens d'investir ni dans les différents sites isolés, ni sur le grand site Inga.
La seule façon de faire les choses aujourd'hui, c'est de concéder une partie de la propriété de ces sites pour être en mesure d'avoir des infrastructures capables de produire. Sinon, nous resterons 100% propriétaires de 100% des euros, et 100% des euros chez Rami Alain, c'est zéro. Donc, il faut qu'à un moment donné ou à un autre, les personnes qui sont en charge de nous gérer, les politiciens qui ont choisi ça comme métier, aient les mains libres pour engager les ressources de l'État. Aujourd'hui, je peux vous le garantir, même le Parlement que nous avons n'a pas la capacité, par exemple, de signer un contrat où il céderait 40 ou 50% de la gestion du grand site d'Inga à des privés qui amèneraient des capitaux. Ça provoquera un tollé incroyable. C'est pour ça que j'en appelle à des discussions de société. Je mets ça de côté. Aujourd'hui, il nous faut des capitaux et il en faut par centaines de milliards pour être en mesure d'agir avec intensité et atteindre rapidement la masse critique. Monsieur Sommoy est en train de parler de la production qui peut être faite. Mais si vous faites seulement la production sans les infrastructures de circulation, vous n'aurez absolument rien fait. Parce que vous aurez des productions qui vont pourrir dans les sites de production. Alors, en ce moment-là, il faudrait que nous sachions que nous devons nous doter d'une vision qui va à des infrastructures, à la capacité de production, à la modernisation, à l'amélioration de notre compétitivité pour être en mesure d'être comparable aux autres nations et être en mesure de supporter la pression. Et donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, il y a un besoin de conception de notre avenir et ce n'est pas qu'une question d'État ou de l'État, ce n'est pas qu'une question politique, c'est une question de société. Nous sommes une société en panne et précaire. On doit s'arrêter le plus tôt possible, non pas pour discuter des objectifs du millénaire, qui est en fait une mouvance internationale, mais de discuter des objectifs de dignité humaine en République démocratique du Congo.
Michel Sommoy, brève réaction au propos d'Alki Kenge. Il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission.
Je dirais à M. Kenge qu'on n'entre pas dans la civilisation par la porte de sortie. Je parle du bien public. Les biens publics, ce ne sont pas que les infrastructures routières. Je suis d'accord, quand on dit les infrastructures routières sont du domaine et de l'État et du privé, mais encore, l'État est donné au privé des conditions qui lui permettent d'intervenir un jour dans le secteur qui est de son ressort. Les biens publics sont des multiples natures, mais qui appellent nécessairement le monopole de l'État. Et n'oubliez jamais que pour une économie qui est encore trop jeune, on a besoin de beaucoup d'État. Une économie qui n'a encore rien, c'est comme un bébé, il a besoin d'être supporté par ses parents. On ne peut pas demander à un bébé qui vient de naître aujourd'hui de vous d'aller sauter le même seul dans l'avion et de partir. Il a besoin d'être soutenu, il a besoin de se protéger, il a besoin d'être avancé, d'être encadré. C'est le rôle de l'État, aujourd'hui ça n'existe pas. La production, si M. Kipengé dit qu'on peut produire sans infrastructure, il faut bien sûr, c'est déjà une question de savoir par quoi il faut commencer. Je veux dire que pour faire un développement, il faut savoir tracer un plan. Et à qui relève ou de qui relève la responsabilité du plan, c'est de l'État, encore une fois. C'est pour ça que nous avons un ministère du plan, c'est son rôle. C'est de savoir dire, voilà, nous avons planifié le développement de notre pays sur autant d'années, et nous devons commencer par ceci et par cela, et on y arrivera. Mais quant à ce qui concerne le secteur privé, son rôle est de produire. Une fois de plus, la production dépend des politiques mises en place, notamment la politique monétaire. J'insiste là-dessus. Et ça, ce n'est pas de la compétence des privés. Même si aujourd'hui on me dit qu'il y a partenariat public-privé, à aucun moment de la vie, une seule entreprise privée n'établira la politique monétaire de notre pays pour déterminer le niveau de la masse monétaire qu'il faut atteindre ou pas. Ça, c'est des ressorts strictement réservés à l'État. Là, il n'y a pas de monopole privé, mais il n'y a pas de progrès qu'on puisse avancer comme prétexte. Ce qu'il y a de vrai à retenir en un mot, Alain, c'est que notre pays, lorsque M. Kipengé dit que l'État n'a pas la capacité de financer les voyages, lorsque M. Kipengé dit qu'il faut aller au marché international des capitaux, je poserai une question. Est-ce qu'il y a un produit qui ne peut être mis sur le marché que s'il a été financé par le dollar américain et non par le franc congolais?
Qu'est-ce
qui nous empêcherait d'avoir une politique monétaire expansive, produire plus de francs congolais au lieu de nous endetter à l'extérieur?
Je vous prie de conclure parce que on va prendre fin. Un mot juste de conclusion.
À l'égard de Solomon, il n'a pas de problème.
Merci.
Pourquoi aller emprunter à l'extérieur si nous avons une banque centrale avec un hôtel de monnaie? Soyons responsables.
Merci Michel Sommoy et Alki Kenge, il faut conclure déjà, on termine l'émission.
Un État pauvre et sans plan, même de bonne volonté, ne pourra pas travailler. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas la technologie ici, il faut donc l'acheter à l'étranger, et donc on a besoin des capitaux en monnaie dure, Et quelle que soit la bonne volonté de Laurent Somon, je ne crois pas qu'il peut faire Laurent Michel Somon, c'est mon ami, je sais de qui il s'agit. Donc il ne saura pas faire la différence. Pour acheter la technologie, il nous faut des dollars, très malheureusement. Et donc ce pays, encore une fois, même pour accéder aux dollars, a les moyens et a les atouts. À mon avis, la question du développement d'un pays comme le nôtre est une question internationale, qu'on le veuille pas.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Et juste rappeler qu'on aurait dû avoir dans cette émission un délégué du ministère du Plan. Cela n'a pas été possible malgré tous nos efforts. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Dialogue entre Congolais est terminé pour aujourd'hui. Kéline Kouté et Samuel Kessak vous l'ont préparé sous la supervision de Martin Sibouzangwe, Patrick Kiasongwa et Eric Sibiakala qui à la technique. Coordination et présentation, Alain Hiron Moussouis. Au revoir. Thank you.